Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lallu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique qui est enregistré aujourd'hui le dimanche 3 décembre dans les conditions du direct depuis la halle Tony Garnier à l'occasion de cette grande réjouissance sportive de fin d'année, l'ASICS Saint-Élion. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi, juste à ma gauche, Marie Goncalves. Salut Marie.
Salut.
Et en face de moi, aussi un peu à ma gauche, Baptiste Chassagne. Salut Baptiste.
Bonsoir à toutes. Je commence super mal. Bonsoir. Salut.
Il n'est que 10h, 11h15 du matin.
Attends. On est un peu décalé quand même.
Salut Paris.
Ouais, pardon.
Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté de prolonger la matinée autour de ce micro après une nuit qui a été bien courte pour vous. Vous avez pu dormir ?
Alors moi, j'ai pas dormi.
Non, pareil.
Rien
non plus.
Tout.
J'ai essayé, mais le gel caféine que j'ai pris juste avant les aqueducs, ça m'a pénalisé pour les prochaines heures.
Cet épisode du podcast, il va être disponible comme habituellement sur les plateformes audio et puis également sur YouTube, je le précise à nos auditeurs. On enregistre l'épisode donc le 3 décembre. Je l'ai dit, c'est une date qui a marqué l'histoire de notre monde puisqu'il y a 31 ans, jour pour jour, était envoyé le premier SMS commercial de l'histoire de l'humanité. Vous, ça a été quoi le premier SMS que vous avez envoyé après avoir franchi la ligne hier ?
Alors moi, j'ai pas eu le temps de faire des longs messages, mais j'ai envoyé un message pour dire mille merci à ma famille. Donc c'est assez court.
Ouais,
et
efficace.
Efficace, parce qu'ils sont restés toute la nuit dehors et je pouvais au moins leur dire ça.
Et ils ont pas pu te répondre parce qu'ils étaient congelés sur le bord de la route.
Parce qu'ils dorment déjà.
Les chanceux, j'ai entendu chanceux ouais. À la fin de la phrase.
Eux, ils sont rentrés dormir.
Et toi, Bat ?
Moi, c'est un SMS à Anne, c'est ma prep mentale. On en discutera peut-être pendant le podcast, mais c'est parce que moi, j'ai eu c'était un peu Bagdad dans ma tête avant la course. Et mercredi, on a fait une bonne séance ensemble, ça m'a vachement réaligné. Je pense que c'est ce qui me permet de faire la course que je fais aujourd'hui. Et du coup, je me sentais reconnaissant et j'avais besoin de lui écrire, donc je lui ai écrit. Voilà.
Elle t'a répondu ?
Je sais pas.
Pas eu le temps de regarder. Ça va être colossal le nombre de messages que vous avez l'un et l'autre, là, entre Instagram, WhatsApp, les SMS.
Pas mal de messages, ouais.
Ouais, pas mal de messages.
C'est quoi l'objectif ? C'est réussir à répondre d'ici jeudi ou vendredi à peu près à l'ensemble des messages ?
Ouais, moi j'essaye de répondre progressivement. Je vais commencer aujourd'hui parce que je pense que je vais avoir un peu de mal à dormir. Mais...
Ce sera fini pour le un petit calendrier de la réponse, normalement.
Mais c'est vrai que c'est pas mal d'étendre les réponses parce que ça permet de... Tu les lis pas tous et du coup ça étale un peu la joie. Tu sais, c'est des bonnes ondes et du coup ça étale un peu la chaleur de ces bonnes ondes sur toute la semaine, quoi.
Vous le savez, on commence à se connaître un petit peu, j'aime bien jouer. Il y a dans notre échange, j'avais un petit mot qui sera prononcé très probablement par l'un de vous à un moment. Et ça va immédiatement interrompre notre discussion. Et je vais vous poser une question en lien avec le mot. Donc, continuez à parler quand même parce que ce sera beaucoup plus captivant. Mais attendez-vous à ce que d'un seul coup, il y a un mot-clé.
Et on peut faire des paris sur le mot ?
Ouais.
Ok.
Ouais. C'est en lien avec la Saint-Élion. Donc il y a quand même une probabilité importante que ce soit prononcé.
Est-ce que c'est le mot frontal ?
Ah, ça aurait pu, très bonne idée. Ouais.
Magique.
Comment tu dis ?
Magique.
Ouais, aussi. Ouais. Tout ça, c'est des bonnes pistes. Ouais. J'en ai mis qu'un. Habituellement, ça m'arrive d'en mettre trois. Là, j'en ai fait qu'un pour vous épargner un peu. Et vous allez vous coucher un petit peu plus tôt. Baptiste, avant qu'on démarre, je voulais savoir si tu avais quand même pu suivre le résultat de Amiens-Saint-Etienne. On sait que tu supportes l'AS Saint-Etienne. Est-ce que tu as pu voir le score avant de partir sur la Saint-Etienne hier soir à 23h30?
C'est pire que ça. On a regardé le match tous ensemble à la coloc. On avait tous le maillot de Saint-Etienne. Et à la mi-temps, on perdait 1-0. Donc il y a la moitié qui sont partis dans l'autre salle pour faire autre chose. Et puis il y a 2-3 forcenés qui sont restés. Et du coup, c'est vrai que moi, ça me fait toujours quelque chose et je partais pas avec une. Ça m'a pas généré une émotion positive avant la course. Donc, du coup, j'ai dû switcher. Mais oui, j'ai regardé le match. Et comme je le ferai pour les prochaines années, enfin, je rate pas un match, quoi.
Il y a eu des fumigènes, donc, qui n'ont pas été craqués pour l'occasion, là, dans l'appart. Au compte tenu du résultat, ils ont été plutôt dans la montée des aqueducs, c'est ça?
Ouais.
C'est à ce moment-là qu'il y a eu des.
Je pense qu'ils les avaient peut-être gardés pour fêter la victoire et finalement, ils se sont dit, bon, bah, on va les craquer quand même ce soir. Et oui, du coup, j'ai mes proches, mon frère et deux amis très proches qui ont craqué des fumigènes verts dans la montée des aqueducs et en mode un peu hooligan. Et c'était un moment, c'était trop bien, quoi.
Je vais juste donner pour nos auditeurs quelques éléments d'information sur la course. Donc, la Saint-Élion, le départ a été donné hier à 23h30. La course est longue de 78 km. Il y a 25% du parcours qui avait été modifié par rapport à l'édition précédente. J'imagine que tu l'as noté, Baptiste.
Oui.
Le parcours avait un peu évolué. La course, elle compte 2296 mètres de D+. 17 000 coureurs étaient inscrits sur l'ensemble des courses du week-end, soit probablement 34 000 pieds gelés et 34 000 mains, à peu de choses près, je pense. On en est là. Deux mois, c'est le temps qu'il a fallu pour que l'épreuve soit soldat. Je crois que ça a été un succès incroyable cette année, deux mois seulement. Et enfin, moins 7, a priori, la température minimale. Bon, on m'a même annoncé moins 9 en ressenti. Je ne sais pas ce que c'était pour vous, là, sur la Saint-Élion.
Je crois que c'était moins 13, moins 11
en
termes de ressenti.
Très, très sérieux, ok. Mm. Moi, sur la Saint-Express, c'était moins 9. Petit joueur.
Et toi, t'as kiffé?
Et moi, j'ai kiffé. J'ai eu un gros trou d'air.
Ok.
Où je me suis dit que j'allais peut-être pas arriver suffisamment tôt pour qu'on puisse faire le plateau ce matin ensemble. J'ai eu des maux de ventre compliqués. Mais c'est revenu. J'ai découvert que boire du chaud, j'en ai parlé avec Jocelyn, ouais, notre popote à l'arrivée, que boire du chaud sur une course, c'était pas mal. Mmh. Je sais pas si vous pratiquez ça, là, boire du chaud sur les ravitaux, mais ça m'a sauvé la vie.
Moi, toute mon eau était tiède ou chaude dans mes flasques.
Nature? Pas de thé ou autre?
Non, avec une boisson d'énergie, quoi.
Toi, bat le chaud?
Tout pareil.
Ok.
Exactement.
Parfait. On va commencer donc à se parler de cette course. Je voulais savoir d'abord à quel point c'est compliqué de se projeter sur une course de fin d'année comme ça. Est-ce que c'est difficile de se mobiliser quand on a une saison déjà assez riche? Ou est-ce que la suprématie de l'objectif et puis de l'enjeu et à quel point la course vous tient à cœur fait que ça pose pas de problème particulier?
Si tu veux commencer, Baptiste.
Ben...
Cadeau.
Mais après, c'était un regard, genre, c'est pas si tu veux commencer.
C'est patate chaude, ça s'appelle...
C'est possible, ouais.
Mais je pense qu'on aura des
réponses différentes
parce que, enfin, moi, j'ai coupé. Baptiste, il a pas coupé, finalement, après l'UTM. Enfin, ou très peu, quoi, au final.
Ah si, au final, moi, après l'UTM... En fait, moi, ma saison, elle était censée s'arrêter à l'UTMB. Et j'ai fait deux mois de coupure, un mois, bah, trois semaines sans sport, vraiment sans sport. Et après, un peu de sport plaisir. Et j'ai repris l'entraînement sérieux fin octobre. Et vraiment, je faisais du home trainer. J'essaye de développer ma VO2 sur le home trainer pour être fort en fait, au championnat de France qui aura lieu dans la Drôme. Peut-être que tu seras d'ailleurs. Pour essayer
avril,
de se qualifier aux Europes. Et du coup, j'avais aucune prépa spécifique. J'ai fait 2-3 tempos en course à pied, en plus de ce cycle de VO2 sur l'home trainer, pour faire cette course dans des bonnes conditions sans me blesser. Et en fait, du coup, c'était pas dans les plans. Et juste, si je me sentais bien dans la semaine un peu avant, je me disais pourquoi pas, même si au fond de moi, je m'étais déjà conditionné, j'avais envie d'y aller. Même si les conditions n'étaient pas optimales, j'avais vraiment, vraiment envie d'y aller pour couronner cette saison. Et donc, du coup, c'est apparu de manière assez évidente assez tôt au mois de novembre, jusqu'à cette fameuse semaine, là, cette semaine, la semaine précédente, où en fait, comme je dis, c'était Bagdad. Et ça a donné une semaine pleine de remous et une course pleine de rebondissements.
Que tu vas nous raconter. Marie, toi, c'est différent?
Alors moi, c'est vrai que j'ai trouvé ça au début un peu difficile parce qu'avec Baptiste, on a commencé notre saison tôt avec les championnats de France. Pour sélectionner aux championnats du monde. Donc les championnats du monde, ça nous a quand même demandé pas mal d'énergie. Et du coup, nous, on a décidé avec Fabien Antoinos, mon entraîneur, de du coup faire une coupure cet été. J'ai fait Sierre-Zinal et après j'ai coupé quasiment 3 semaines, vraiment sans rien. Et on a repris vraiment pour en septembre pour la prépa Saint-Élion.
C'est facile, la 3 semaines de coupure radicale ?
Non, c'est pas facile.
c'est pas trop difficile de regarder l'UTMB depuis, enfin l'UTMB ou les courses de l'UTMB ouais. Depuis le canap.
Alors du coup, j'ai eu la chance de reprendre à Chamonix.
Ok.
Tranquillement, j'ai repris par des footings à Chamonix et du coup, je pense que c'était la meilleure reprise.
Ok.
Parce que tu fais des footings quand on a envie, entre les courses. Et quand t'as le temps, entre les moments où t'encourages les copains. Et du coup, okay. J'ai trouvé ça cool, en fait, sans prise de tête.
Et t'es pas frustré de pas participer à la fête, un peu, de certaine manière ?
Non, parce que tu sais que t'as un objectif derrière
C'est fort,
qui te fait encore plus vibrer.
Ok, ouais. Trop chouette.
C'est une course que vous connaissez tous les deux éminemment bien de par vos racines. Baptiste, toi, tu viens chercher toujours quelque chose de différent ici, sur les différentes courses que t'as
non,
pu.
Non, je viens chercher la gagne, c'est pas différent. <c'est>
Mais là, justement, ce qui était un peu différent cette année, en tout cas ce que j'ai lu et ce que j'ai cru comprendre dans nos échanges, que tu la courais pas pour la gagner. Est-ce que c'est un état qui peut être malgré tout plaisant, apaisant, ou est-ce que où les pieds sont un peu moins légers pour aller sur la ligne de départ dans ces conditions-là ?
Moi, c'était... comme je t'ai dit, jusqu'au début de la semaine, c'était assez évident. Je venais pour le plaisir, pour le kiff, essayer de juste donner le meilleur de moi-même. Et puis, même si j'aime pas trop les... Enfin, moi, j'aime bien les athlètes qui... Enfin, j'ai grandi avec ça et les champions que j'ai admirés, c'est tous ceux... C'est toujours des gens qui ont assumé leur objectif, qui disent pas « je viens pour me faire plaisir ». Si tu viens pour te faire plaisir, tu viens pas à la compète, quoi. Mais là, vraiment, j'étais dans ce mood-là. Et à l'entrée de la semaine, je sais pas, j'ai une sorte de chape de plomb qui s'est abattue sur moi avec une sorte de pression que je me suis mis par rapport au regard des autres, tu vois, me dire en fait je suis attendu ici, j'ai réussi une belle saison, donc il y a plus d'attente, je suis plus visible, je suis plus exposé, je me cache pas de mon amour pour cette course et je me suis dit mais en fait est-ce que t'as besoin d'aller te mettre en danger, est-ce que c'est pas mieux de clôturer ta saison 2023 avec l'UTMB qui était réussi? Et puis finalement j'ai fait cette prépa mentale et ça m'a réaligné avec mon objectif et je suis trop trop heureux de l'avoir couru et d'être ici pour en discuter avec Marie et avec toi.
Là, tu parlais des attentes. Est-ce qu'il y a justement, si on peut les niveler, en tout cas celles qui sont les plus difficiles peut-être pour toi à gérer, c'est celle de tes proches ? Est-ce que c'est le team ? Est-ce que c'est les médias ? Est-ce que c'est l'orga ? Qu'est-ce que tu...
C'est un peu tout.
T'arrives à isoler quand même une qui te... Ou t'as envie de réussir pour eux avant tout ?
Il y a un peu de ça. Avant, je voulais vraiment réussir pour les autres. Maintenant, je veux réussir avec mes proches. Avant, je voulais le faire pour eux. Je me disais, s'ils passent la nuit dehors, il faut que je leur procure des émotions. Il faut que je leur rende par ma performance. Maintenant, j'ai fait un pas de côté. J'ai compris que, en fait, déjà, ne serait-ce que les rassembler, autour, c'est un peu comme si j'organisais mon anniversaire, quoi, et qu'ils passaient un bon moment dans tous les cas, au-delà du résultat, et qu'ils étaient juste heureux pour moi. Donc ça, je l'ai acquis. C'était plus une envie de bien faire, une envie de bien faire, de pas, je saurais pas trop l'expliquer, mais c'est particulier. On est avec Marie, on est des enfants de la Saint-Élion, c'est chez nous. Je sais pas comment dire, il y a des attentes qui sont personnelles et autres. Un peu qui sont élevés parce qu'on on est attendu.
Marie, tu as un lien très particulier avec la course. Est-ce que tu peux nous dire, l'ancrage familial, il y a quand même un certain nombre d'anecdotes intéressantes avec Fabien Antolinos aussi.
Ouais.
Nous raconter en quoi cette course, elle est marquée tes premiers émois entre elles déjà très jeune, puisque tu es très âgée aujourd'hui.
comme Basile, je suis lyonnaise. Du coup, c'est vrai que la Saint-Élion, quand tu es lyonnais... tout le monde en entend parler, tu vois, là, ces derniers temps, j'allais courir en ville, je voyais tout le monde avec un t-shirt de finisher de la Saint-Élion. Et
tu sais, les petits bonnets horribles, les piscines, c'est pas si bon la piscine ou si bon.
Et du coup, tu dis, pour des Lyonnais, c'est la Saint-Élion, c'est mythique. Et en plus, moi, ma maman l'a gagnée en relais avec ses copines et je l'ai déjà suivie.
Pas si longtemps que ça, hein, je crois.
Je sais plus si c'était en 2016 ou 2015, j'arrive plus exactement à savoir la date parce qu'elles l'ont fait plusieurs fois en relais. Elle l'a déjà fait en solo. On faisait ses ravitaillements, je me souviens, j'ai fait la fin du parcours avec elle. Et Fabien Antolinos, mon coach, l'a gagné en 2008, je crois que c'était. Donc il y a quand même tout un symbole. Et puis je suis au club d'athlétisme à Décines. Et tu vois, c'est la Saint-Élion, tout le monde l'a fait, quoi. C'est vraiment...
Il y a la Rolex à 50 ans et puis il y a la Saint-Élion. Ouais. Si à 30 ans, t'as pas fait la Saint-Élion.
Ouais. Non, mais là, je sais plus combien on était, mais c'était énorme, quoi. Quand on faisait des séances, on était 30, quoi. Donc, ouais, non, c'est...
Ce que dit Marie, je pense qu'il faut vivre à Lyon pour se rendre compte, mais c'est vrai qu'il y a une émulation.
Ouais.
Mais c'est pour ça que t'as envie de participer à la fête, c'est que tu te dis, bah, en fait, sinon tout l'automne, je suis pas dans le délire, quoi. Mmh. Je suis un peu...
Mais même ceux qui font pas de course à pied connaissent la Saint-Élion ou...
Ah,
où ils te disent ah bah oui bah moi j'ai mon beau-frère qui fait la Saint-Élion
Denis a...
voilà Denis non il y a toujours quelqu'un enfin c'est assez impressionnant quoi.
Marie t'avais gagné les deux petites cousines de la Saint-Élion,
ouais.
La Saint-Express de format de 44 km en 2021, la Saint-Esprint l'année dernière. J'ai lu que tu projetais pas forcément d'être sur la Saint-Élion dès cette année. Qu'est-ce qui a motivé ton choix finalement de te dire que c'était le bon moment?
Eh ben, globalement, ça tombait bien dans la saison. Là, en ce moment, je suis pas en cabinet d'avocat, je suis en entreprise. Et quand tu es en entreprise, bon, bah, tu es en 37 heures, comparé en cabinet d'avocat où tu n'es pas du tout
en 137 heures.
Oh ouais, en 137 heures. Et du coup, bah, à 37 heures, moi, ça me permettait de pouvoir m'entraîner plus facilement.
Toi, tu as une connaissance absolue du parcours?
Alors, j'habite pas sur le parcours, quand même. Mais du coup, c'est vrai que pour reconnaître, bah, c'était plus simple parce qu'on n'est pas très loin. Et puis, j'avais déjà fait le 23 et le 46 km. Donc, t'as quand même, même s'il y a quelques parties qui changent, tu sais quand c'est la fin, quoi. Tu sais quand ça va être dur. Donc, c'est cool, ça.
Toi, Baptiste, tu me disais l'année dernière que tu le connaissais pas tant que ça, finalement. En tout cas, pas tant sur le bout des doigts que ce qu'on aurait pu penser. Mais...
Non, je connais. Enfin, je vais assez peu sur le parcours. Je fais jamais de repérage. Et tout à l'heure, on me posait la question, qu'est-ce qui te manque pour la gagner? Mais je pense que c'est une vraie prépa. En fait, à chaque fois, c'est un peu la cerise sur le gâteau de la saison. Et je trouve que le choix que fait Marie de...
Mettre le gâteau avant la cerise.
Ouais, voilà.
Le gâteau Saint-Élion avant la cerise.
Exactement, le gâteau avant la cerise. Et du coup, ben, en fait, c'est ça, c'est de se dire, ok, je fais un sacrifice. Par exemple, je vais pas à l'UTMB ou je commence plus tard ma saison, je vais à l'UTMB, mais du coup, je suis hyper frais après. Enfin, globalement... Il y a quelque chose à faire dans la saison pour que la Saint-Élion, ce n'est pas le quatrième objectif de la saison ou l'objectif bonus, mais vraiment un objectif concret qui est marqué en début de saison, quoi. Donc non, je ne connais pas si bien le parcours, juste je le fais le jour de la course, quoi. Donc en fait, les paysages, je connais... enfin, après, c'est ma famille est là-bas, donc si, je connais bien les monts du Lyonnais, mais tu me lâches là-bas, tu me droppes là-bas au plein jour, je sais pas où c'est.
Si je te droppe de nuit avec une frontale là-bas, par exemple, tu sais pas où
nickel.
T'es. Ouais. Si, ça va.
Il rentre à Lyon.
Ouais, c'est ça, je vais rentrer. Je hume l'heure de la maison, mais je vais là où il fait froid, puis normalement c'est bon, face au vent.
Je reviens juste rapidement là sur cette notion de pression. Est-ce que c'est quelque chose qui s'évacue dès les premières foulées en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent à l'avant-course de ressentir cette forme de pression mais qui s'évacue parce que tu es dans l'action, tu es dans ton ambition
faut...
de réussir sur le sentier?
Enfin, moi en tout cas, ça m'a pris quelques kilomètres. Tu vois, la partie sur la route, j'étais encore un peu
à tergiverser, ouais, à cogiter.
À me dire, ok, est-ce que ça va Ouais, non, là, je me posais encore pas mal de questions. Et puis après, dès que tu arrives sur les sentiers, je trouve que ça va un petit peu mieux. Je sais pas, Baptiste.
Ouais, c'est exactement la même chose. En fait, on se toise un peu.
Ouais.
Puis en fait, il y a un truc à la Saint-Élion. Et peut-être qu'il y a des gens qui participent pour la première fois, le savent pas, mais il y a les relais. Mm. Et qui sont présents. Du coup, ça fausse un peu toutes les informations. Et tu peux dire, non, mais il y a des mecs qui sont devant, ça laisse partir, ou des filles qui sont devant, et du coup, si t'es pas.
Et là, en plus, ils avaient fait le kilomètre le plus rapide, le premier kilomètre le plus rapide, donc du coup, t'en as qui sont partis à fond, premier kilomètre, et après qui s'arrêtaient, attendre leurs amis derrière, quoi. Donc j'ai dit, ok.
Et toi, tu t'es régulé au cardio ou
Non, à l'allure. Et...
Ah, tu regardais la montre,
ouais,
sur l'allure.
Okay. Ouais, je regardais, j'avais prévu des temps de passage, et.
Ok.
Globalement.
Ah ouais. Et t'es dedans?
Dedans. Okay. Genre, j'ai 6 minutes d'avance.
Ah ouais? Oh là là, c'est imperfect.
Incroyable. T'as fait la prépa que tu voulais précisément?
J'ai fait la prépa que. Ouais, vraiment. C'est sûr que les prépas, tu vois, là, moi, c'était depuis septembre. T'as toujours quelques petites tensions et tout à la fin, mais j'aurais pas fait meilleure prépa. Et vraiment, je suis super contente. Et d'ailleurs, je m'étais dit avant la course. Si ça se passe pas bien, ben en fait, t'as fait la prépa que tu voulais et ça te servira pour la suite.
Quelle ambition on peut avoir quand c'est sa première Saint-Élion, qu'on la découvre? Peux tout nous dire maintenant.
Bah moi, comme Baptiste, je rêve de gagner cette course. Donc bon, jusqu'au départ, jusqu'à l'arrivée même, tu te dis bon, ça se trouve, ça peut passer, quoi. Enfin, moi, c'est vrai que le 23 et le 46, à chaque fois, j'ai eu de la chance et c'est passé du premier coup. Là, bon, le 78, il y a quand même beaucoup plus de monde. Mais l'objectif, c'était déjà une place sur le podium. Je m'étais dit, ouais, ce serait dingue. Et moi, c'était la première fois que je faisais aussi long. Donc, globalement, je savais que mon corps pouvait tenir 45 km. Et après, le reste...
Surprise. Pochette surprise. J'ai l'impression que tu as donné une réponse assez claire.
Ouais, alors j'ai eu très mal aux jambes la fin, mais...
Ça se voit pas du tout ce matin, en tout cas. Vraiment pas.
J'ai une démarche un peu chaloupée.
Il va falloir 22 secondes pour descendre du fauteuil sur lequel on est assis. Bat, est-ce que tu avais établi une stratégie très précise de course, en tout cas la façon de la gérer par rapport à tes référentiels des années précédentes?
Alors, j'ai pas encore trouvé la stratégie pour la gagner, parce que par contre, j'ai trouvé les stratégies qui ne fonctionnent pas. Donc, la première, c'est d'être trop patient. Parce que j'ai été pour ma première, je pense que j'étais un petit peu peut-être c'est normal, un peu trop prudent. La deuxième, comme ça faisait 2 ans que je l'avais pas couru et que l'année d'avant je m'étais retrouvé bénévole, alors c'était génial comme expérience à Soucy-en-Jarez, j'ai vu des trucs, c'était la cour des miracles, mais à cause d'une fracture de fatigue, et ben en 2022 j'étais tellement bouillant que je m'étais dit je vais passer devant à tous les points de passage, je serai le premier à tous les points de passage, je vais gagné au panache. Donc j'ai couru pour gagner, je suis tombé sur plus fort que moi, j'ai perdu. Et là, cette année, l'idée, c'était d'être vraiment plus prudent. Mais prudent, assurer un tempo assez soutenu dès le début et durcir l'effort à partir de Saint-Genoux. Parce que je pense que c'est là...
C'est le mot. Genou, c'est le mot qui interrompt l'échange. Donc on se souvient que tu nous as dit à partir de Saint-Genoux.
Aïe, aïe, aïe.
Alors, je vous raconte mon histoire.
C'est genre, c'est dangereux ce qu'on va faire là ?
Non. Okay. Je vais pas vous demander de faire 8 tours sur vous-même sur un genou.
Non, c'est pas possible. Marie, elle va rentrer à cloche-pied, c'est le gage.
Je vais vous parler de patinage artistique et du genou de Nancy Kerrigan. C'était une patineuse donc célèbre en 1994 notamment. Il lui est arrivé une mésaventure. Elle s'est fait attaquer à coups de barre de fer dans sa patinoire après un entraînement pour lui bousiller le genou, ce qui n'est pas très sympa. Est-ce que vous savez qui aurait eu intérêt à faire ça ? Quel genre de personne ?
Une concurrente ?
Ouais. Exactement.
Wow.
Il y a eu une histoire il n'y a pas très longtemps, les féminines au foot,
ouais,
au PSG, à Paris, exactement.
On n'a jamais trop su le fin mot de l'histoire.
Ouais.
Et Marie, elle a besoin d'un avocat.
N'hésitez pas à écrire à
marie.avocat.lyon.fr. Alors, une bandelette s'affiche avec...
Pour un premier rendez-vous, envoyez rendez-vous au 3617 près d'un appel local. Donc voilà, c'est effectivement, ils ont découvert que c'était Tony Harding qui était une grande rivale qui a fait ça et qui a commandité ce truc-là. Au final, Nancy Kerrigan a redoublé d'efforts pour être prête pour les JO de Lillehammer en 94. Et elle a fini deuxième alors que la commanditaire de l'attentat a fini huitième. Il y a une morale quand même dans l'histoire. Mmh. C'est pas très esprit trail ça, on verrait pas ça.
Non, pas du tout.
Non.
Baptiste, tu étais donc à Saint-Genoux.
Ma stratégie, c'était d'être prudent mais pas trop, en étant quand même vachement focalisé plus sur mes sensations que sur le classement, et de durcir la course progressivement à Saint-Genoux. Moi, c'est pas ma qualité. Enfin, je suis pas explosif comme Marie qui a un passé athlétique sur les crosses. Moi, ma force c'est d'assurer un train assez soutenu pendant longtemps, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais
d'ailleurs, Baptiste m'avait dit la veille de la course à Saint-Genoux, c'est là qu'il faut attaquer jusque là il faut être bien, quoi, parce qu'après la fin ça va être dur.
Ouais, c'est vraiment pour moi c'est le point clé. C'est un ravitaillement où il y a jamais personne parce qu'il est dehors et tout, mais pour moi c'est le plus important en fait, parce que c'est au bout de c'est au 3/5 de course et c'est là où tu commences à vraiment pêcher énergétiquement. Et moi, la portion que je trouve la plus longue, c'est à chaque fois c'est Saint-Genoux soucieux. Enfin, c'est un enfer ce truc, c'est interminable. Et après, ça va mieux.
Manu, pardon. On dorme plus, hein, non? Baptiste,
Manu.
Non, mais attends, tu vas voir, ça sort pas complètement nulle part.
Rien à voir.
Jean-Pierre.
Ton pote Manu.
Aucune syllabe.
Attends.
Ah, Manu, tu descends ou pas?
Il y a quand même un lien. C'est une référence à la musique électronique que tu affectionnes particulièrement, Baptiste. Je sais pas. C'est, alors, c'est une référence de un peu quadragénaire. Donc je ne sais pas si ça passera. Il y a un pilier pour toi sur cet Intellion, c'est Manu Messa, qui a été double vainqueur ici. C'est ton ancien professeur d'auto-école et on peut dire que c'est lui qui t'a éveillé, en tout cas, au plaisir du trail. Il n'était pas là cette année, contrairement à l'année précédente. Est-ce que sans Manu, tu faisais moins le malin?
Oh, très fort. Il y a un
tu l'as ouais,
ouais,
Manu le malin.
Bien sûr. Et qui, d'ailleurs, nouvelle bandelette qui s'affiche. Événement le 16 janvier, juste à côté, là, au sucre, avec Manu le malin qui fait son dernier back-to-back avec Miss Kittine.
Ok, parfait.
Ouais.
C'est déjà au programme de ce soir, je crois. Il y a un concert, et... enfin, une soirée musique électronique.
C'est ça. Moi, ça tape un peu, par contre.
Ouais.
Mais du coup, Manu, mais ça, oui, c'est un peu celui qui m'a mis la basket à l'étrier, qui m'a parlé de la Saint-Aignan, qui m'a, comme tu dis, éveillé à cette course. Et les deux premières éditions que auxquelles j'ai participé, j'ai pris le départ avec lui. Et c'est toujours intéressant. Enfin, moi, j'adore. C'est un peu ton guide et je me calais un petit peu avec lui. Enfin, je me disais, si je suis avec Manu, il a gagné deux fois la course, je suis bien, quoi. Et du coup, là, cette troisième édition sans lui, il manquait quelque chose un peu au départ, mais bon, finalement, j'arrive à voler mes propres ailes maintenant.
Vous avez vu, Manu, ça sortait pas complètement de nulle part.
Non.
Pas tout à fait. Marie, on en a parlé l'année dernière avec Baptiste ici même. Comment toi, tu gères une journée de course comme celle-là avec un départ le soir? Baptiste m'expliquait que c'était l'occasion pour lui de se faire une nuit de la veille beaucoup plus apaisée. Ce que tu me racontais, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, Baptiste, le fait de partir tard le soir. Toi, c'est agréable, c'est facile à gérer par rapport au départ matinaux qu'on connaît sur les courses?
Alors moi, je suis beaucoup plus du soir que du matin.
Okay.
Donc déjà, je préfère m'entraîner tu vois, le soir à 18h30 que le matin à 9h30, 10h. Et puis là, du coup, je trouve que c'est plus pratique parce que tu n'as pas besoin de te lever tôt pour prendre ton petit déjeuner. Tu n'as pas de stress de te dire « j'ai loupé un réveil ». Enfin, là, quoi qu'il arrive, à 23h30, normalement, tu t'es réveillé de ta journée, quoi. Donc, puis tu as le temps de faire une sieste. Enfin, non, je trouve que c'est... Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'a pas dérangé.
C'est le moment de raconter la course. Baptiste, tu as commencé déjà à le faire. Peut-être tu voudras étayer un tout petit peu, peut-être juste pour faire les grands, grands chapitres de ta course. Je vais commencer par Marie. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter depuis la ligne de départ jusqu'à... À l'arrivée ici à la Altony Garnier, les grands, grands chapitres, comment
ouais,
toi t'as vécu ces différentes étapes
grands...
et cette découverte de ce format-là?
Bah déjà, j'ai vu toutes ces personnes qui prenaient les navettes et tout à l'Al et je me suis dit, waouh, le nombre de personnes en fait qui vont s'élancer, c'était c'est impressionnant. Je trouve, enfin, on se rend pas compte, nous on est un petit peu privilégiés, on nous emmène. Et là, j'ai vu tous ces coureurs, je me suis dit, ah ouais, ils vont prendre le départ avec nous et c'était assez dingue parce que eux, en fait, leur course commence avant, quoi. Et du coup, on est allé à la halle.
J'ai entendu une navette halal au début. Quand
ah non,
non mais c'est une navette halal.
Ouais, halal. Non, non, mais il y a peut-être des navettes halal, mais je ne connais pas.
Peut-être une idée pour l'année prochaine.
Ouais, moi, le départ, j'étais quand même assez stressée. Parce que tu vois, j'ai l'habitude de m'échauffer souvent au moins une heure avant. Et là, en fait, sur 78 km, tu n'as peut-être pas besoin de faire une heure d'échauffe avant. Et là, surtout avec le froid, c'était quand même particulier
tu pars,
à gérer.
Ouais, tu pars, t'es malade, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc déjà, l'échauffement, je trouve que c'était pas facile à gérer. J'ai eu quelques problèmes en plus de frontal juste avant. Donc heureusement, on a pu gérer et tout parce qu'on en avait d'autres. Donc le début était un peu stressant.
C'est quoi, toi, la chose que tu apprends le plus sur la course? De manière générale, de cette distance-là
La distance. Globalement, la distance me faisait quand même assez peur. Parce qu'en fait, c'est l'inconnu. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais je ne l'ai pas découpé, tu vois, en kilomètres. Je pense que je n'ai jamais regardé les kilomètres. Je l'ai vraiment découpé en ravito, ravito 1, ravito 2, ravito 3. Et te dire, bon, bah voilà, tu vas au ravito 1, tu vas voir ta famille, tu vas voir Tom-Tom. C'était Thomas Lorblanchet qui me faisait mes ravitaux. Et du coup, je trouve que ça passe mieux quand même. Et donc, les grandes étapes.
Ils sont en train de nous achever avec Mano là.
Ouais.
C'est pas Manu, si Manu le malin, mais c'est Mano.
Mano le malin.
Ouais.
Mano le malin.
C'est ça.
Pardon.
Mais je peux me permettre. C'est pourquoi tu dis que c'est mieux que ce soit Thomas et pas ta famille?
Alors, c'était Thomas qui faisait mes ravitaux. Alors,
ouais.
C'était Thomas et ma mère.
Ok.
C'était les deux en même temps.
Okay. Et d'habitude, c'est plus ta famille qui te fait les ravitaillements?
D'habitude, c'est souvent Bastien. quand même.
Okay.
Quand on fait pas les mêmes courses, quand on fait pas les mêmes courses. Mais là, Bastien a couru et okay. En fait, c'était top parce que en fait, on a fait la même prépa du coup.
Ah,
et en
ouais.
fait, c'est quand même plus sympa, tu vois, de te dire bah ton copain il fait la même prépa que toi. T'es dans
tu
le même partages, mood pendant ouais. deux mois, trois
ça
mois.
Ça permet
avec.
De se voir aussi, c'est un peu c'est pratique.
aussi. aussi. Parce que ouais, c'est vrai qu'on s'est. Ouais, tu fais quand même quelques kilomètres pour la Saint-Élion.
Bah
quoi.
Ouais.
Donc,
Et au ravitaillement, que ce soit quelqu'un qui soit extérieur, avec qui t'as moins d'affectif, genre ça fait quoi c'est, ça fait que c'est plus carré, plus pragmatique, plus pro.
Alors. Avec Tom Tom, on a quand même pas mal de liens.
Ah oui, ok.
Enfin, tu vois, quand on s'appelle, genre, enfin, on peut rester 45 minutes.
Ok.
Du coup, non, enfin, il y avait pas de, tu vois, genre, c'est une personne vraiment extérieure. On a quand même une relation assez particulière, je trouve, et du coup, enfin, tu vois, je savais que il pouvait me dire les bons mots.
Ouais, ouais.
Tu vois, mais enfin, voilà, vraiment me dire que j'avais besoin quand même quelqu'un. Tu vois qui me connaissent bien. Je pense que c'est important d'aussi.
C'est ultra important. Ouais. Mais je suis, enfin moi l'aspect quand j'ai commencé c'était mes parents ou
ouais.
des gens très proches qui faisaient les ravitaillements et j'ai vu que ça fonctionnait pas en fait parce que, enfin je sais pas, il y a trop de d'émotions
d'affectif,
ou de d'affectifs ouais. et donc du coup soit ils me disent pas les bons mots, soit ouais. moi je suis frustré. Enfin, je suis pas.
Bah là, du coup, ma mère et Thomas, ça faisait un peu un entre-deux.
Ah oui.
Parce que Thomas, comme il a été coureur à notre place, il sait en fait.
Ouais.
Enfin, c'est quand même plutôt carré, quoi.
T'avais la main de fer et le
ouais.
gant de velours, quoi. la petite caresse après. Ok, voilà. j'aime bien.
Donc, un ravito après l'autre. Tu regardes les positions. Enfin,
ouais.
tu demandes les écarts très souvent.
Ouais, moi je demande souvent les écarts. Et tu vois, même à la fin, on me disait oui, il y a 20 minutes avec Marilyn. Et dans ma tête, je me disais non, c'est pas possible. Fonce jusqu'à l'arrivée. Donc, ouais, non, il me donnait les écarts. Globalement, je suis partie assez tranquille. J'ai respecté les conseils de Baptiste qui m'avait dit.
J'avais ça, je pense que tu avais ce tocoge, Thomas.
Il y a un moment où ça a un petit peu basculé. C'est après Sainte-Catherine, je suis tombée. Et en fait, tu sors vachement de ta course. Je trouve quand tu tombes, j'ai eu du mal à me remettre. Tu vois, on m'a dit, ouais, marche. Mais en fait, c'est, la descente était tellement verglacée que même en marchant, ça changeait rien.
Est-ce que ça peut créer une perte de confiance aussi enfin,
bah,
déjà tempérer
ouais,
un peu
complètement, parce que du coup, t'oses plus envoyer tu vois, dans les descentes. Et alors, heureusement, ça n'a pas duré très, très longtemps. Mais tu avais quand même... deux belles descentes où ouais, je me suis pris trois bonnes gamelles. D'ailleurs, je disais à Colin, j'ai ma clavicule cassée, alors que pas du tout.
Je te vois bien.
Elle est peut-être classée au patrimoine mondial
ouais.
du trail running, mais elle n'est pas cassée.
Non, je disais, ouais, j'ai la clavicule cassée. C'est pas grave, tant que c'est pas les jambes, il me reste encore 40 km.
C'est dur au mal quand même, hein, Marie.
Bah, au final, je me suis rendu compte tu vois, que j'avais un discours interne. Ouais, tu vois, je me parlais, je me disais, allez, tu veux le faire. Alors qu'à l'entraînement, je tombe comme ça, j'arrête mon entraînement, je pense, tu vois. Enfin, et là, en fait, j'ai réussi, tu vois, à me dire, tu vas réussir. D'ailleurs, j'avais écrit au marqueur sur mes compotes Baou des petits mots. Et tu vois, c'était tout bête, mais à Sainte-Catherine, j'ai récupéré ma compote et c'était écrit amuse-toi. Et en fait, quand tu vois ta compote, tu repenses à ce mot quand tu l'as écrit et tu dis ouais, en fait, il faut que je sois heureuse.
C'est pas les noms
là,
des
quoi.
Autres coureurs, par exemple. Tu vas bouffer Julie.
Ouais.
Non, c'est beaucoup plus pacifique.
T'as pas posé le copyright parce que je voudrais pas avoir de problème légal. C'est trop bien.
C'est
bah, ouais, en fait, je trouve que, tu vois, on a des bons réflexes des fois. Mais si ça se passe mal, la course, t'as du mal à reprendre tes bons réflexes, tu vois. Moi, je sais que j'essaye de sourire
ouais.
au maximum. ça marche pas tout le temps. Mais en fait, quand tu souris, du coup, t'es vachement relâché. Et si t'es relâché, bah, t'es détendu et la course, ça se passe vachement mieux. Et rien que d'essayer de se forcer à sourire, et ben, ouais, ça... Enfin, moi, en tout cas, j'ai vu que ça marchait bien. Et ces petits mots, ouais...
Donc c'est évident, une chute ne t'a pas fait sortir de ta course en tout cas.
Non, enfin un petit peu mais pas trop longtemps. Et aussi bah du coup j'avais de la chance d'avoir ma famille donc tu vois t'es quand même vite soutenu. Enfin j'avais globalement quelqu'un je pense tous les 6 kilomètres. Donc c'était quand même plutôt cool et bon par contre passé soucieux. Bah là, il me restait un peu moins de 1 km. Et là, les jambes, ça a commencé à être vraiment, vraiment difficile. Mais je me suis dit, bon, Marie, t'es deuxième, c'est complètement dingue, tu vas t'accrocher à cette deuxième place. Surtout que Fabien, mon entraîneur, m'avait dit, globalement, tout se joue à la fin. Vraiment, le classement peut bouger à la fin. Entre quelqu'un qui court pas et quelqu'un qui court, t'as une grosse différence. Et donc vraiment, à la fin, je me suis arrachée parce que, en fait, derrière, je savais pas vraiment si Marilyn courait encore ou pas, quoi.
T'as couru la montée des aqueducs ? Apparemment, c'est le truc pour gagner, c'est ce que j'avais compris l'année dernière. Non, c'est ça, faut la courir.
C'est ce que Manu m'avait dit. Ouais. Si, ouais. Si tu cours, déjà, si tu veux gagner, faut certainement courir dans la montée des aqueducs. Mais si tu cours, c'est que tu vas vers quelque chose de bien, quoi.
J'ai couru les trois quarts. J'alternais marche-course. Donc,
À quel moment tu t'es dit que la seconde place était acquise ? Et puis, est-ce que c'est une chose qui t'a satisfait pleinement déjà ? Est-ce que t'as donné beaucoup de plaisir sur les derniers kilomètres ?
Je pense que c'est quand t'arrives sur le pont, à Confluence, là, tu te dis, bon, tu te retournes un peu, tu vois, et là, tu vois... Déjà, tu peux te retourner.
Tu vois personne.
Bah, où tu vois, mais course, tu vois les autres, tu vois, de la Sainte Express et tout. Mais je pense que moi, je me suis vraiment dit sur le pont, ok, là, c'est bon, tu peux pleurer, parce que j'ai pleuré avant même d'arriver, moi. Mais d'émotion, vraiment, de me dire, t'es sur le pont, il y a toute ta famille, c'est dingue, quoi.
Baptiste, est-ce que tu veux étayer peut-être par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, là, sur ta course ?
Bah, pas forcément sur ma course, mais moi, il y a un truc, et ça, je l'ai confié à Marie juste avant, là, ce que je trouvais impressionnant, c'est... Moi, il y a quelque chose qui m'impressionne, je te parlais des attentes, et le côté répondre aux attentes, et quand t'es exposé, bah, délivrer la cam correcte le jour J, tu vois. Et moi, quand je suis arrivé au salon de la Saint-Élion, j'ai vu une photo de Marie en 10 par 3, tu vois.
Qu'elle a installée dans sa chambre de fille, petite histoire d'ego.
Bah, je l'ai rachetée, et du coup, on l'a mis chez moi dans le salon, je suis désolé. Hein. et du coup, non, et je me suis... Et puis même, il y a... Voilà, aujourd'hui c'est le jeu. Quand t'es athlète de haut niveau, il faut tes partenaires, ils ont. Enfin, c'est aussi pour ça qu'ils te soutiennent. Il faut. Enfin, il y a cette partie médiatique. Et pour une première Saint-Élion, être capable de, tu vois, assumer ce petit poids sur les épaules en se concentrant uniquement sur sa course et sur les petits mots de bienveillance que donnent les compas de Baou, je trouve ça incroyable. Et tu vois, je trouve. Mentalement, c'est vraiment ce qui définit les champions, cette capacité à gérer la pression. Et bref, c'est plus ça, je trouve.
Bon, ça me touche le. Je vais pas verser ma petite larme. Mais...
Non, mais c'est. Non, tu l'as vu, toi, le 10 par 3 de Marie à l'entrée.
J'ai fait une offre, mais t'étais passé avant, donc voilà, c'est toi qui as rappelé la mise.
Aux enchères.
Non, mais c'est sûr que quand. Enfin. Tu vois, j'étais dans les favorites, mais en fait, je vais me dire, bah non, en fait, j'ai gagné le 23, le 46, mais 78, ça n'a rien à voir. Donc, dans ma tête, j'étais pas du tout dans les favorites. Enfin, ça n'avait rien à voir. Et puis, même moi, je savais pas ce que je pouvais donner sur 78.
Et ça, le goût de reviens-y.
Ouais.
voilà. C'est bon.
Il y a eu beaucoup d'émotions sur la ligne d'arrivée, donc ça a commencé par les hommes. Donc, bravo à Thomas Cardin, qui a gagné la course chez les garçons. Antoine Charvolin, qui est arrivé ensuite. C'était un moment très puissant aussi. Peut-être, je sais pas si vous avez vu les images, ça peut être Baptiste quand t'es arrivé. C'était encore beaucoup, beaucoup d'émotions visibles pour Antoine, mais je t'invite à les regarder. Okay. Toi, Marie, ça a été aussi très, très fort.
Ouais, moi, c'est. Enfin, j'étais trop. En fait, j'étais déjà tellement heureuse de finir cette course, de me dire ok, t'as fait la Saint-Élion. T'es une vraie lyonnaise, quoi. C'est bon, c'est baptisé, quoi. Et parce qu'en fait, dans ta tête, quand tu vas à Saint-Etienne, enfin moi, j'arrivais pas
c'est
à me dire.
C'est l'étranger, il faut un passeport.
Ouais, bon, déjà voilà, je sais pas. Hein.
Je t'ai mis la bonnette de micro vert, Baptiste. Il y a pas de hasard, hein.
Les couleurs de Saint-Etienne. Ouais, ouais, merci beaucoup.
Non mais ouais, en fait dans ma tête, je me disais non mais c'est impossible de faire 78 km quoi. Et du coup en fait rien que d'arriver ici, tu dis ok bah t'as couru toute la nuit et t'es rentré à la maison quoi. Et j'ai trouvé ça énorme, enfin, de me dire.
Et brillamment, on peut quand même le dire.
Pardon ?
Et avec la manière, et brillamment.
Ouais. Bon, maintenant, je peux plus marcher, mais. Non, ouais, c'était surtout de l'émotion de me dire, ok, j'ai réussi à la faire. Et en plus, une petite place sur le podium.
Bravo aussi donc à Julie Roux qui a emporté la course, et puis Marilyn Nakache qui complète le podium, et évidemment à tous les coureuses et coureurs. Baptiste, il y a eu le coup de pagaie à l'arrivée, un grand classique. Elle avait un goût un peu différent des autres, là, ce final. Il y a toute l'histoire avec la course et puis un chapitre qui se ferme.
Ouais, exactement. Et un autre qui s'ouvre aussi.
Bien sûr.
Mais oui, c'était un coup. Bon, alors, il avait la même serveur de d'habitude, puisqu'on a quand même galéré autant que d'habitude. Et c'est bien ça que ça veut dire, c'est qu'on a ramé pour en arriver là. Mais oui, il avait une saveur un peu différente, et c'est pour ça que moi j'étais autant ému. C'était ma dernière course avec le maillot du team Sidas Matrix. Je vais entamer un nouveau chapitre l'année prochaine. Et c'est pour ça aussi que j'avais beaucoup de pression. Enfin, je me mettais beaucoup de pression. C'est que je voulais honorer de la plus belle des manières ce maillot que je porte là toujours et que je porterai à vie. Hein. C'est un tatouage, c'est pas un logo. Mais et du coup, c'est ça qui me rendait aussi fier de... C'est que je voulais faire une belle course pour honorer ce maillot et je l'ai réussi. Et en fait, j'ai été empreint d'émotion quand j'ai compris que en fait, j'étais en train de faire le dernier kilomètre... Alors, je sais pas de ma vie, mais enfin voilà, dernier kilomètre avec ce maillot-là et je me suis laissé submerger et voilà, je me suis juste ultra reconnaissant de ces 5 années et donc je ferme un chapitre pour en ouvrir un autre très bientôt, mais je reste toujours aussi connecté à ma famille, c'est ma tribu et ça changera jamais.
Marie, cette course, elle t'a appris quoi sur toi ?
Eh ben, que j'avais des ressources que je connaissais pas. Non, mais ouais, quand tu fais la Saint-Élion, je pense que tu apprends plein de choses, surtout avec les conditions qu'on a eues cette nuit. Parce que tu vois, quand on était en haut moins 13 dans la neige, sur le verglas, tu te dis ok, là, ouais, il faut être un peu, je sais pas, complètement givré ou des warriors, je sais pas ce qu'on est, mais.
On était givrés, des petits Mister Freeze comme ça, qui courent à Sainte-Catherine.
Ouais, non, et puis j'ai découvert que j'aimais beaucoup le long. Enfin, pour moi, c'est du long. Parce qu'en fait, j'aime bien cette partie où, au début, t'es tranquille. Tu vois, tu fais 35-40 km où tu dis, ok, bah là, ça se passe bien. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie pour la suite de faire un petit peu plus long.
Lyon-Saint-Élion, donc l'année prochaine, hein, c'est ça la logique, normalement ?
Non.
Ouais. Non, c'est pas la vraie.
Ouais. Ouais.
En fait, comme on pense que c'est plus long, c'est plus prestigieux, je sais pas, mais la vraie, la 69e ouais. édition, la doyenne, c'est Saint-Élion.
Point final, sans discussion.
Et j'ai jamais fait le 12 km aussi.
Ok.
Donc...
l'année prochaine. Je sais pas si dans l'histoire, il y a quelqu'un qui a tout gagné comme ça. Tu pourrais être la première.
Ça pourrait être une belle histoire, effectivement. Baptiste, toi, cette course, elle a continué de paver ta voie vers le plus haut niveau. Elle te construit encore. Elle t'a apporté quoi ?
Ben, vraiment, le leitmotiv depuis, enfin, ce matin, c'était, c'est ce que je t'ai confié avant la course, c'est que j'avais pas envie d'y aller. Enfin, au fond de moi, j'avais pas envie, mais je sentais que j'avais besoin d'y aller parce que je me suis dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et que la course allait me forger par rapport à. Dans tous les cas, les attentes, les enjeux, la pression, si tu veux devenir un champion, c'est un passage obligatoire. Et je me suis dit que ben, plus j'apprendrai à y faire face tôt, alors à connaître des échecs ou des réussites, mais plus je m'y exposerai tôt, plus je parcourrai du chemin rapidement. Et c'est dans ce mood-là que j'y suis allé vraiment cet aspect se forger. Et je pense que là, vu les conditions et leur rudesse, on sort forgé, t'inquiète pas, on est bien.
C'est du solide.
C'est du solide.
Est-ce que dans des courses qui sont accomplissantes comme ça et qui sont réussies, on peut le dire, est-ce qu'il y a toujours quand même des zones d'optimisation avec lesquelles vous repartez quand même des courses comme celle-là ? Ou est-ce que c'est le bonheur finalement d'avoir réussi à la hauteur de ce que vous espériez ou même au-delà, ou en tout cas d'avoir donné le meilleur, est-ce que ça suffit ? Ou est-ce que de ça... On repart quand même avec des choses, on se dit ça doit être mieux fait, ça faut que je corrige, je dois progresser sur ça.
Alors moi je sais qu'à chaque fois à la fin des courses, tu vois, j'essaye de savourer au maximum et une semaine après on se pose et on dit ok, bon c'était super cool mais qu'est-ce qu'on peut améliorer, et en fait de chaque course tu tires, je trouve plein de points à améliorer. Enfin, je sais pas toi, Baptiste, mais toi, par exemple, moi, les championnats du monde, cette année, c'était une expérience de dingue. Et en fait, quand tu te poses sur le papier, tu te dis « Ah bah oui, mais l'alimentation, ça allait pas. T'as fait une hypo, t'as fait ça, t'as fait ça. » Ok, bah c'était super cool, mais en fait, ça aurait pu être 10 fois mieux, quoi.
Ce qui est chouette aussi, non, ça, j'imagine, ça donne envie d'y retourner et puis de te dire qu'on peut aller chercher prétendre encore d'autres résultats et continuer à avancer parce qu'on
l'affine avec le temps. On est jeune, du coup, je pense qu'on a vraiment plein de points d'amélioration, quoi.
Toi, Baptiste, tu repars toujours avec ta petite liste d'optimisation ou c'est...
Mais je trouve ça trop cool d'avoir cette période où tu profites. Comme ça, tu la gâches pas toute fin. Si tu es tout de suite dans l'analyse, effectivement, tu es tout de suite dans la course d'après, donc tu ne surfes pas sur ce kiff et les endorphines, quoi. Et en fait, je pense que ça dépend des courses. Là, aujourd'hui, moi, franchement, je pense que j'ai couru à mon 100% de ce que j'avais. Je suis pas dans l'analyse parce que honnêtement j'ai donné le 100% avec mes armes, ce que j'avais, les cartes que j'avais en main. Et je pense que j'ai fait une course aboutie et pour l'instant je suis dans le kiff. Peut-être qu'à terme je vais analyser et me dire ouais là il y a des opportunités d'amélioration, mais non, là elle est vraiment aboutie. À l'UTMB par exemple, pour le coup, c'est une performance qui est prometteuse, mais je me dis, wow, là, il y a vraiment plein de choses à améliorer. Là, sur cette Saint-Élion, je suis pleinement satisfait, je suis fier de moi et je pense que ça va accompagner longtemps cette sensation.
Une image, c'est une question que je pose toujours dans le podcast. S'il n'y en avait qu'une à retenir de cette Saint-Élion, à un moment, là, tu viens d'y penser, c'est quel moment ?
Moi, c'est l'arrivée. Vraiment, l'arche d'arrivée, je trouve ça magnifique et. Enfin, tu vois, t'arrives sur le pont et après ils te font faire un petit détour et tu te dis mais elle est où cette halle ?
Tu le connaissais le détour ou pas ?
Oui.
Ok.
Ouais, bah du coup des courses précédentes que j'avais fait et du coup tu te dis elle est où cette halle et après là quand tu
après,
la vois.
Après ça va parce que le panneau 1 km à la fin il est à moins de 1 km en réalité. Je sais pas si vous avez fait attention.
Ouais. Alors je l'ai pas vu moi ouais. Mais.
Il était planté. Mais...
je l'ai pas vu, j'étais dans
c'est
le flou.
À 22, ça à 22
il a
km.
Sa règle, il vient calculer. avec son décimètre, ça peut prendre longtemps.
Mais en fin de course, je regarde beaucoup là, comme je suis au bout de ma vie. Et toi, Bat, une image ?
Bah franchement, c'est la ligne d'arrivée aussi. Hein.
Ouais.
Ah, il y en a deux. Je peux avoir deux ?
Ouais.
Ok. Bah la première, c'est la ligne d'arrivée. C'est hyper magnétique. Ouais. Enfin, elle est. Moi d'ailleurs, quand je vais retirer mon dossard, j'essaie de pas trop la regarder. Et la deuxième image, c'est quand tu commences à revoir Lyon. Bah qu'en fait, quand t'es lyonnais, c'est la maison. Et quand tu vois les lumières au loin, et tu te dis ah ouais. Il y a la maison, c'est pas loin, et ça arrive vers Saint-Genoux. Mmh. Tu dis que t'es vraiment pas loin, t'es pas loin du but, quoi. Et ça, je sais pas, c'est une forme de chaleur aussi. Et il y a un autre truc aussi, je sais pas, je me dis, je suis proche de l'arrivée quand je croise les arrêts TCL. TCL, oui. Faut savoir, c'est le service de transport en commun à Lyon. Okay. Et je pense qu'on a pris avec oui. Quand on était pour petit, ouais. Quoi. Et quand on revoit ces arrêts, ouais. C'est un peu comme la RATP à Paris, tu vois. Ouais. Bah quand tu commences à recroiser ces arrêts-là, ouais. Tu dis ah ouais, en fait là on commence à être vraiment, ouais. Dans la ville.
Tu te dis s'il y a des arrêts de bus TCL, c'est que bon, on est sauvé.
Ouais, c'est ça, exactement.
La civilisation.
Tu regardes les horaires pour voir s'il y en a un qui, ouais. Pourrait te mener à l'Altony Garnier.
Et mince, ça commence non, qu'à partir de 5h.
Vous êtes
un
trop rapide.
Y a pas.
Merci beaucoup à tous les deux. On va se quitter là dans quelques minutes. Là, c'est la période de Noël qui approche à grands pas. C'est quoi ce que vous avez mis sur votre liste ? La première chose que vous allez mettre ? Est-ce que c'était le résultat d'hier ou est-ce que vous avez d'autres idées là ?
Alors moi, j'ai toujours du mal à trouver mes idées de cadeaux. Donc je sais pas encore.
Ouais, moi aussi, j'aime bien être surpris. Mais ouais. Ça pourrait faire genre la réponse de « on a déjà tout ».
Ouais, non mais en plus, c'est vrai que bah, on a quand même...
Oui, on manque pas grand-chose. On manque pas de grand-chose. Est-ce qu'on peut avoir un temps de réflexion ?
Bien sûr.
Je vais faire un tour de la halle et je reviens, ok ?
Le poster de Marie de 10 mètres par 3.
Moi, c'est plus... on peut parler d'une résolution, parce que les fêtes, c'est pareil. Ouais. C'est pas un cadeau, c'est une résolution. Moi, ma résolution, ça va être de m'assumer plus en tant qu'athlète de haut niveau. Et donc, du coup, d'être plus indulgent par rapport au moment où je suis en repos et où je travaille pas. Comme c'est pas mon métier...
Pas culpabiliser, en fait, c'est ça ?
C'est ça. Comme c'est pas mon métier, en fait... Pour moi, tu vois, quand t'es athlète de haut niveau, là, on a fait notre métier globalement ce week-end et demain, on devrait se reposer. Moi, c'est pas comme ça que je le conçois. Pour moi, là, on a kiffé et demain, on va au vrai boulot, quoi. Et ce serait ça ma résolution, c'est de se dire, j'accepte de dire, ça fait plus partie de mon métier et les temps de repos, je les accepte avec moins de culpabilité. C'est ma résolution. Voilà.
Marie, on pivote sur la résolution avant que tu aies trouvé de cadeaux pour Noël.
Du coup, il m'a lancé une autre question piège. Bah, c'est sûr que j'aimerais bien faire comme Baptiste. Moi, j'ai pas encore bien fini mon cursus, donc c'est sûr que cette année, enfin du moins jusqu'à fin août, je suis obligée de encore bosser bien en cabinet. Mais après, ouais, c'est vrai que peut-être essayer de se dégager un petit peu plus de temps. Tu vas pas dire ouf, je suis en 37 heures, je vais pouvoir m'entraîner. Ouais, non, c'est, je pense que ce serait une bonne résolution.
Dernière question de l'épisode. La première chose que vous allez faire juste après, là, maintenant, là, on va se quitter.
Moi, un autre podcast.
Ah, moi, je vais faire un brunch.
Ok, c'est bien aussi. Voilà. Parfait. Ça n'en finit pas. Bon, j'espère que vous pourrez vous reposer quand même rapidement. Merci à tous les deux pour votre disponibilité. Je sais combien c'est délicat. Là, vous êtes sur l'adrénaline, mais ça fait quand même un petit moment que vous êtes debout et vous avez énormément
donné.
Ce soir,
il y aura peut-être un plat.
Un petit drop. Ouais,
c'est comme le souffler, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement.
Baptiste, il est assez ambitieux pour sa soirée, je crois.
Ouais,
soir,
moi, là. Je vais aller à un concert, je pense. Ouais. Après, en fait, moi, j'arrive pas à dormir après les courses, donc je pense que le
autant
concert, je l'aurai demain ou après-demain.
Merci à tous les deux en tout cas pour votre temps, c'est toujours un immense plaisir d'échanger avec vous deux. Merci d'avoir fait le show alors qu'il faisait extrêmement froid quand même, ça a été passionnant de voir votre course et merci et continuons de voir ce que 2024 vous réserve.
Merci pour ton invitation, j'ai bafouillé, pardon.
Merci.
Avec plaisir, à bientôt.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.